Les rencontres d'Edmond Morel. Serge Tisseron, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier essai en date, paru chez Albin Michel, « Fragments d'une psychanalyse empathique ». Alors ce livre se partage en deux parties. La première dans laquelle vous nous présentez une série de, je dirais, de polaroïdes d'une analyse que vous avez faite chez un psychanalyste qui vous a beaucoup marqué, Didier Anzieux, qui pratique cette psychanalyse empathique. Et la deuxième partie est consacrée à une définition de ce qu'est l'empathie à travers des exemples et un développement sur l'empathie. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on évoque d'abord la figure de Didier Anzieux, que vous nous dites qui il est pour vous.
Oui, alors Didier Anzieux fait partie des ce qu'on appelle les analyses de la troisième génération. La première génération, c'était Freud. La deuxième génération, les élèves de Freud. Et on pourrait dire les petits-enfants de Freud. Voilà, Didier Anzieux. Quelqu'un qui a beaucoup marqué la psychanalyse en France dans les années 1950 à 1980. Quelqu'un qui a beaucoup contribué, comme on dit aujourd'hui, à la construire, à construire la théorie. Donc il était surtout connu comme théoricien, mais pas tellement comme praticien. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme analyste pendant une dizaine d'années, entre 1985 et 1995, et j'ai été surpris par sa façon très atypique de travailler. Tellement atypique d'ailleurs que... il en parlait pratiquement pas en public. Et pendant longtemps, j'ai eu envie de témoigner de cette analyse qui, pour moi, avait été non seulement un lieu extraordinaire d'apprentissage, mais je dirais aussi un lieu de grand plaisir partagé avec lui. J'ai eu longtemps envie d'en témoigner, mais j'avais l'impression que l'époque ne s'y prêtait pas. C'est-à-dire, pendant très longtemps, encore jusque dans les années 2000, l'image d'Épinal, du psychanalyste froid, distant, était à peu près reconnue par tous. C'est-à-dire, on pensait que pour qu'une analyse fonctionne, il valait mieux que l'analyste en dise le moins possible. Mais Anzieux lui parlait beaucoup. Et moi, j'osais pas parler de ce qu'il faisait avec moi. Et puis, vous savez, les choses ont évolué. Beaucoup de gens aujourd'hui attendent autre chose de leur analyste. On est à l'époque d'Internet, on est à l'époque où on interagit. Et puis, les gens ne vont plus voir leur analyste pour parler des mêmes difficultés que par le passé. Ils ont d'autres attentes, d'autres exigences. Et il m'a semblé que c'était le bon moment maintenant pour parler de ce travail avec un analyste, encore une fois atypique, mais empathique. Je crois que son atypie est en train de devenir la règle. C'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre. Il n'y a pas, je crois, aujourd'hui, d'autre façon humaine, adaptée à l'époque, de pratiquer la psychanalyse que d'être un analyste empathique.
L'autre psychanalyste que vous citez en première page de votre livre, et en faisant référence à l'image, à l'icône que l'on a de lui, c'est Sigmund Freud, avec cette image d'un homme sévère, froid, et vous expliquez que c'est une image dont on aurait peut-être dû s'éloigner.
Qu'on aurait dû contextualiser, pour le moins, comme on dit aujourd'hui, contextualiser une image. Oui, cette image de Freud de l'air tragique, c'est une image de Freud à la fin de sa vie. Il a un cancer de la mâchoire qui non seulement déforme sa bouche, mais en plus qui le fait horriblement souffrir, et c'est vrai que ce Freud-là, on ne l'imagine pas sourire. Mais il y a heureusement d'autres images de Freud, notamment prises par des photographes qui ont travaillé pour Marie Bonaparte, et il y a d'autres images de Freud qui le montrent au contraire souriant, presque aussi beau qu'un acteur hollywoodien. Et ce que je dis, c'est que justement, c'est pas par hasard, Didier Anzieux avait dans son bureau non pas l'image du Freud tragique, rongé par son cancer, mais l'image du Freud souriant, une image en couleur d'ailleurs, une image, encore une fois, presque en technicolore, hein, qui donnait vraiment envie de parler à Monsieur Freud, si affable et si sympathique. Voilà. Et donc, malheureusement, cette image du Freud tragique a complètement occulté le fait que Freud, à d'autres moments, était quelqu'un qui pouvait plaisanter, qui parlait beaucoup à ses patients, qui pouvait sourire. Et cette image du Freud tragique, d'ailleurs, probablement aussi du fait de la grande tragédie de la dernière guerre, hein, qui a porté son ombre sur la deuxième moitié du XXe siècle, cette image du Freud tragique s'est imposée partout en psychanalyse comme l'image évidente, l'image de référence. Oh, j'ai voulu montrer que non, c'était un effet d'une époque, qu'on peut ne rien ignorer du message fondamental de Freud et être un psychanalyste chaleureux, qui interagit, qui est capable de sourire, de rire, de s'étonner et de partager avec ses patients beaucoup de choses, même si la relation reste asymétrique, forcément, puisque le patient vient voir l'analyste pour mieux se comprendre, alors qu'en principe, l'analyste est censé avoir fait une psychanalyse personnelle et faire sa propre affaire de la compréhension de lui-même. Donc la relation n'est pas symétrique, mais comme je dis, elle est quand même mutuelle et réciproque. Et ça, c'est vraiment très important, c'est ce qui pour moi définit l'empathie.
Oui, la relation mutuelle dont vous parlez est une très bonne manière de définir la mutualité des contributions permettant à chacun de retirer en fonction de sa part ce dont il a besoin.
Exactement, c'est la signification originelle du mot mutuel. Les gens ont une mutuelle de santé. Eh bien, la mutualisation, elle fonctionne aussi, pour moi, elle doit fonctionner dans une situation analytique. Alors, pour faire comprendre ça, je m'éloigne un peu à un moment dans le livre de la psychanalyse pour parler du film Intouchable. Alors, c'est formidable le cinéma parce que, surtout qu'un film comme Intouchable, parce que beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens en ont été touchés, et tous les gens qui ont vu ce film ont bien vu que la relation entre les deux personnages, un noir très rebelle, Driss, et puis un grand handicapé richissime, Philippe, tout le monde a bien vu que dans cette histoire, la relation n'est pas symétrique. Les deux ne sont pas capables de faire les mêmes choses. Mais justement, c'est parce que la relation n'est pas symétrique qu'elle va pouvoir être mutuelle et réciproque, c'est-à-dire chacun va pouvoir apporter à l'autre quelque chose que l'autre n'a pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment une valeur essentielle de la psychanalyse. Je crois qu'un patient ne peut, à la limite, accepter d'évoluer dans son travail avec un analyste que s'il a l'impression qu'il peut, même sur une toute petite échelle, faire évoluer son analyste. Ne serait-ce que le faire sourire en lui racontant une histoire drôle, le peiner en lui racontant une histoire triste. Mais je crois que les patients aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression que tellement de choses nous échappent, ils ont besoin de se sentir acteurs, de pouvoir modifier l'environnement. Alors, si vous faites une longue analyse avec un analyste que vous avez l'impression de ne jamais pouvoir toucher, de ne jamais pouvoir faire évoluer, de ne jamais pouvoir transformer, vous risquez fort de faire une analyse qui finira par vous convaincre que vous ne pouvez rien transformer ni aux gens qui vous entourent, ni au monde qui vous entoure. C'est-à-dire finalement le contraire de ce que devrait être une psychanalyse.
En fait, dans votre livre, on a le sentiment que vous souhaitez, à travers l'expérience que vous avez vécue avec Didier Anzieux, re-responsabiliser dans la décision et dans le choix d'un psychanalyste le futur patient.
Oui, absolument. Alors, c'est un livre qui s'adresse bien sûr aux jeunes psychanalystes, pour leur montrer que si Didier Anzieux a été atypique, avec quand même l'apport théorique considérable qu'il a fait, eh ben, il ne faut pas que eux, jeunes analystes, ils s'empêchent d'être atypiques. Il faut inventer, il faut innover. Encore une fois, les attentes des patients, la culture, tout a évolué. Donc il faut réinventer la psychanalyse, mais en même temps, en gardant ce qui est fondamental. Et c'est mon livre s'adresse aussi aux gens qui vont voir un psychanalyste, en leur disant, ben voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Moi-même, j'ai posé beaucoup de questions à Didier Anzieux et j'ai été surpris de voir qu'il y répondait toujours. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions à votre analyste. Montrez d'emblée à votre analyste, dès que vous allez le voir, le genre de relation que vous avez envie d'établir avec lui. S'il vous répond d'une façon qui montre qu'il est capable d'établir cette relation, c'est que sans doute c'est le bon choix. S'il n'est pas capable de vous répondre d'une façon qui vous montre qu'il correspond à vos attentes, c'est sans doute que c'est le mauvais choix. Vous allez en voir un autre. Je crois que, il ne faut pas considérer aujourd'hui en 2013 qu'un analyste silencieux, froid et au visage de marbre, c'est un bon analyste. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est encore prisonnier d'une image de la psychanalyse qui devra être abandonnée dans les années qui viennent.
On pourrait même émettre l'hypothèse que si Freud exerçait aujourd'hui, il entrerait de plein pied dans cette psychanalyse empathique. D'ailleurs, un ses contemporains que vous évoquez, Sandor Ferenczi, avait déjà eu cette intuition-là.
Oui, absolument. Freud, d'ailleurs, a eu des moments, des patients qui ont témoigné de leur analyse avec lui, Freud a eu des moments où, en effet, il était très empathique avec ses patients. La froideur s'est imposée après. Elle s'est imposée, justement, cette fameuse troisième génération des psychanalystes. Freud parlait parfois trop à ses patients, mais c'est normal, il inventait tout, et donc des fois il s'est un peu fourvoyé, notamment dans le fait de parler beaucoup à ses patients. Ses élèves se sont mis à parler beaucoup à leurs patients, parce que comme Freud l'avait fait, c'était les élèves de Freud, ils ont voulu faire pareil, et la troisième génération des analystes a pris exactement le contre-pied, parce que comme ils avaient trouvé souvent que leur analyste ancien élève de Freud, parlait trop, eh bien, ils se sont mis à ne plus rien dire. Et c'est comme ça que dans les années 1950 à 1990-2000, s'est imposée l'image d'un psychanalyste silencieux. Mais vous savez, je crois que si Freud existait aujourd'hui, il penserait un certain nombre d'aspects de la théorie analytique tout à fait différemment, et je crois surtout qu'il penserait la pratique différemment. Et d'ailleurs, vous avez raison, Sándor Ferenczi, qui était contemporain de Freud, a proposé de travailler sur d'autres bases dans la relation, et il a d'ailleurs été entendu par des grands psychanalystes comme Michael Balint, comme Winnicott, et tous ces gens, en privé, disaient que leur manière différente de travailler était valable pour tous les patients, mais souvent en public, ils étaient obligés de, pour ne pas s'opposer, pour ne pas risquer la colère ou l'agressivité de leurs collègues, en public, ils disaient ben, ma façon empathique de travailler, c'est pour certains patients seulement, mais comme disait Anzieux, mais dans la relation privée, ils reconnaissaient que cette façon de travailler différente était valable pour tous les patients.
Vous précisez dans votre livre que l'empathie ne doit pas se substituer à l'analyse, mais qu'elle est au service de l'analyse. C'est vraiment une sorte d'outil de travail qui construit la relation. Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça ?
Complètement. C'est pas parce que je parle autant d'empathie qu'il faudrait en déduire que je pense qu'un analyste a à être empathique et c'est tout. Non, pas du tout, hein, quand même. Un analyste a à être empathique parce que je crois que l'empathie rend l'analyse moins douloureuse et plus efficace. Mais ce n'est que l'une des qualités de l'analyste. Un analyste doit aussi être capable d'autocritique vis-à-vis de lui-même, et un analyste doit être capable de retenir certaines de ses émotions. Il y a des émotions que l'analyste éprouve qu'il est important de montrer au patient parce qu'elle l'accompagne sur son chemin, dans son élaboration, mais il y a au contraire des émotions qui concernent l'analyste seul et qu'il vaut mieux qu'il retienne. Quand son émotion permet au patient d'avancer plus loin, l'expression de cette émotion est importante. Quand l'émotion éprouvée par l'analyste ne concerne que lui dans sa vie intime, il faut évidemment qu'il la retienne. S'il la montre, c'est établir une mauvaise complicité et risquer d'amener le patient sur des chemins qui ne sont pas les siens et qui sont ceux de l'analyste. Donc l'analyste doit à la fois avoir de l'empathie, mais en même temps une bonne connaissance de la théorie, et puis surtout cette capacité d'autocritique et d'auto-inhibition de ses émotions. L'analyste empathique n'est pas quelqu'un qui montre toutes ses émotions, c'est quelqu'un qui est capable de faire le choix entre les émotions qui vont accompagner le travail du patient et les émotions qui pourraient compliquer le travail du patient.
Dans l'intimité du cabinet de Daniel Anzieux, vous racontez par exemple le fait qu'il chaussait ses lunettes lorsqu'il commençait une analyse avec vous. Alors là, le regard écoute.
Voilà, le regard écoute. Un jour, je mettais toujours ses lunettes quand j'arrivais. Donc un jour, comme je lui posais beaucoup de questions, parce que comme il avait commencé à répondre à mes questions, je m'étais enhardi, je lui en posais beaucoup. Et je lui ai dit un jour, ben écoutez, je suis étonné, quand j'arrive, vous mettez vos lunettes. C'est assez inhabituel pour un psychanalyste. M'a répondu en souriant, écoutez, c'est pour mieux vous voir. Et effectivement, je dois reconnaître que sa manière de me regarder était un formidable encouragement à m'avancer toujours plus loin dans des territoires difficiles. Je le voyais m'accompagner de son regard. Son regard me parlait, même des fois il ne disait rien. Il ne faut pas croire. Je raconte des moments où il parlait. C'est normal, je ne vais pas raconter des moments où il disait rien. Ça serait pas très passionnant. Je raconte des moments où il parlait. Mais quand même, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de moments où il disait rien, mais en tout cas, il était extrêmement présent par son visage et surtout par son regard. On pourrait dire que son regard me portait ou m'écoutait.
Et vous parlez aussi. À certains moments, vous disiez que finalement, ça faisait partie de l'échange entre l'analyste et vous, c'est son regard.
Oui, j'ai beaucoup été frappé notamment par le fait que quand je lui racontais des choses qui avaient pu être pénibles pour moi, même si je les racontais parfois, comme ça arrive à tout le monde, de manière un peu goguenarde, vous savez, en prenant du recul, en essayant de ne pas se laisser affecter, en essayant de ne pas montrer que c'était douloureux, en faisant le fier, hein, même pas mort, même pas blessé, j'ai toujours été frappé du fait que dans ces moments-là, son regard s'attristait. Et ça a été extraordinairement important pour moi. C'est ce qui m'a permis de comprendre à certains moments que des choses que je racontais étaient vraiment tristes et que si je les racontais comme ça, comme des banalités ou comme des choses dont je pouvais être fier, c'était pour me cacher le fait que c'était vraiment des choses tristes. Et je crois que ce simple regard où je vous lisais la tristesse m'a permis de réaliser la grande tristesse et la grande détresse où j'avais été parfois dans ma vie, sans m'en rendre compte, en me le cachant. Et lorsque j'ai retrouvé cette tristesse, cette détresse, j'ai pu porter un regard différent sur ma vie, mais pas seulement parce que j'avais retrouvé cette tristesse, mais parce que je l'avais retrouvée accompagnée par le regard de quelqu'un. C'est-à-dire que je n'étais plus seul dans ce moment où je découvrais ma tristesse, puisque je la découvrais dans ses yeux, alors que quand je l'avais éprouvée par le passé, j'y étais seul.
Et c'est là où on rejoint cette intuition de Freud que vous évoquez, qui est l'impossibilité pour chacun d'entre nous de se retrouver soi-même en étant seul dans cette démarche.
Absolument, c'est devenir soi à deux, hein, voilà, c'est le sous-titre, la deuxième partie. J'aurais aimé que ce soit le titre d'ailleurs, puis finalement malheureusement ça n'a pas pu l'être. Devenir soi à deux, je crois que c'est vraiment la grande leçon freudienne, hein. On ne peut se découvrir qu'à travers l'autre, mais se découvrir à travers l'autre, ça ne veut pas dire se découvrir à travers un autre qui régulièrement vous donnerait des interprétations pour vous dire tiens, ceci, ça signifie ceci, cela, ça signifie cela. Non, se découvrir à deux, devenir soi à deux, c'est véritablement réaliser que nous sommes chacun un être unique et en même temps un être dont les émotions peuvent être partagées, parce que nous avons chacun un registre émotionnel partageable, nos expériences sont uniques, et je crois que c'est dans cet aller-retour entre le caractère unique de nos expériences et le caractère partageable de nos émotions qu'on peut à la fois construire son chemin personnel et comprendre qu'on le construit avec d'autres, hein. C'est être à la fois dans l'individualité et dans le partage.
Pour clôturer cet entretien, Serge Tisseron, j'aimerais que vous évoquiez deux mots qui prennent un nouveau sens. C'est le mot transfert et contre-transfert qui devient résonance, et puis le mot compagnonnage.
Voilà. Alors, le transfert, c'est toute une grande aventure dans le milieu psychanalytique. Hein. Vous savez, à l'origine, c'est le fait que le patient fasse jouer à son analyste le rôle d'un personnage important pour lui. Par exemple, un patient fait jouer à son analyste le rôle d'une mère froide, s'il a eu une mère froide, ou d'un père autoritaire, s'il a un père autoritaire. Donc, après, il y a des analystes qui ont dit, mais ça ne suffit pas, il faut introduire le contre-transfert. Le contre-transfert, c'est que le fait que l'analyste, à certains moments, va réagir avec ses parties profondes de personnalité au transfert de l'analyste. Puis il y a des gens qui ont dit, mais ce n'est pas encore suffisant, parce que tout ce qu'éprouve l'analyste avec le patient, ce n'est pas forcément une réponse au transfert du patient. Et là, j'ai trouvé le beau mot que Maria Torok propose, qui est le mot de résonance. Le mot de résonance, ça veut dire qu'à certains moments, il va se passer entre l'analyste et le patient quelque chose de partagé, qui va faire que chacun va l'éprouver de manière plus intense parce que l'autre l'éprouve aussi. À tel point qu'on ne va plus très bien savoir lequel des deux est à l'origine de ce qui est éprouvé. Mais l'important, c'est que ça va être éprouvé ensemble et ça va pouvoir être mis en mots ensemble. Et ces moments sont très précieux parce que c'est des moments, pour évoquer le deuxième mot dont vous me demandez de parler, c'est des moments où on va pouvoir parler de compagnonnage. C'est quoi le compagnonnage? C'est, comme vous savez, le fait qu'il y a un maître et un apprenti, que le maître est plus âgé, ou au moins qu'il a un entraînement plus long dans une certaine discipline, et donc le maître va apprendre à l'apprenti, mais parfois l'apprenti va faire découvrir des choses au maître. Eh bien, la résonance, c'est ça, la relation analytique, c'est ça. Le psychanalyste a fait un plus long chemin, il a fait une analyse personnelle, mais à certains moments, il va pouvoir découvrir sur lui-même des choses que le patient va lui faire découvrir, et dans ces moments de découverte, on va être dans des résonances, hein, c'est-à-dire que l'un et l'autre vont se trouver, éprouver une émotion proche, autour de représentations proches, et ces moments sont très précieux parce que, je dirais, vous savez, ça donne confiance dans la relation, dans l'être humain, dans le fait de pouvoir partager des choses au-delà des mots, avec les mots et en même temps au-delà des mots, avec et au-delà.
Serge Tisseron, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, « Fragments d'une psychanalyse empathique » chez Albin Michel. Et je voudrais quand même signaler à ceux qui nous écoutent que le livre est en plus d'une lisibilité et d'une pédagogie parfaite et que c'est en cela qu'il est lui aussi empathique. Merci Serge Tisseron.
Merci, merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.